Donc, j'avais envie de commencer avec Jean-Pierre Seize, donc directeur de l'Observatoire des politiques culturelles. Peut-être vous allez vous présenter un peu plus largement, parce que j'imagine que ça n'est pas la seule institution que vous avez connue, et que votre parcours dans la question des politiques culturelles a traversé peut-être plusieurs institutions. Donc, je vous laisserai vous présenter de façon plus complète. Mais on avait envie de vous poser cette question, cette première question un peu naïve et simple. Alors, c'est quoi l'Observatoire des politiques culturelles et qu'est-ce qu'on y observe ?
Merci pour la question, merci pour l'invitation. Et je vais immédiatement passer à la question. Qu'à des éléments biographiques secondaires, et puis sur ça, je pose l'essentiel. Pour comprendre ce qu'est l'Observatoire, deux éléments d'abord en préambule. On a toujours privilégié les travaux qualitatifs et c'est un observatoire un petit peu curieux, c'est un observatoire qui ne fabrique pas de statistiques en continu, sauf sur les dépenses culturelles des collectivités territoriales depuis quelques années, je vous expliquerai pourquoi. Parce qu'en réalité, ce n'est pas un travail technique, c'est un travail très politique. Le deuxième principe qui préside à la mission d'observatoire, c'est que tous les travaux que l'on réalise retombent dans le domaine public, dans l'espace public, sont à la disposition de tous. Donc on ne fait pas de vide et toutes les publications sont à la disposition de chacun. Et les études, aujourd'hui, les études et recherches sont disponibles gracieusement sur le site internet de l'observatoire. Alors, c'est quoi l'Observatoire ? Au moment de sa fondation, je vous aurais dit, l'Observatoire, c'est un organisme qui a vocation à accompagner, comme on le disait, la décentralisation et même la déconcentration des politiques culturelles. Donc l'objet, c'est au fond de travailler sur les coopérations entre les instances de la décentralisation et l'évaluation de cette coopération. Aujourd'hui, je ne formulerai plus du tout les choses de cette façon. Je dirais plutôt que le rôle de l'Observatoire aujourd'hui, c'est de travailler sur les mutations qui traversent la culture et les politiques culturelles. Et ce qu'on essaie de faire, mais c'est délicat, c'est un peu compliqué, c'est pas si clair que cela, c'est au fond de travailler sur les interactions entre les enjeux artistiques, les enjeux culturels, les enjeux de société et les enjeux de politique publique. Parce que si on ne cherche pas à relier ces différentes problématiques-là, on ne peut rien comprendre. Politiques culturelles telles qu'elles évoluent aujourd'hui. Alors bien sûr, on travaille aussi sur l'évolution, le sens des politiques culturelles. Où vont-elles ? Quelles sont leurs finalités aujourd'hui ? On ne formule plus ces finalités de la même façon qu'on les formulait il y a encore une vingtaine d'années. Elles sont menacées, ces politiques culturelles. Par quoi sont-elles menacées ? Voilà un sujet aussi sur lequel nous travaillons. Et puis, elles se régénèrent aussi. Il y a des exemples, je pense que dans l'occasion tout à l'heure d'en parler, il y a de très très beaux exemples de projets de politique culturelle qui nous indiquent une sorte de chemin à suivre. Alors bien sûr, on travaille, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a mis en place une réforme territoriale extrêmement importante en France en 2014-2015. Donc on travaille sur les effets de cette réforme territoriale. Et ils sont très conséquents. Alors, les mots-clés de cette réforme, c'est métropolisation, régionalisation, mais quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. L'un des effets que l'on observe, c'est aussi la montée en puissance des intercommunalités, y compris sur le plan culturel. Mais ça, c'est même pas visible. C'est très peu visible, parce que ces institutions que sont les intercommunalités, ces établissements publics de coopération intercommunale pour la plupart, ce ne sont pas des collectivités territoriales au sens classique de cette notion, c'est-à-dire une commune, une région, un département, un exécutif qui jusqu'ici était au suffrage universel direct. Bon, les EPCI, ce n'est pas ça. Donc c'est d'ailleurs pour ça que ces intercommunalités ne peuvent pas intervenir comme elles le veulent dans le domaine culturel. Il faut qu'elles disent, qu'elles déclarent une compétence culturelle, qu'elles circonscrivent le champ sur lequel elles vont agir. Donc c'est une contrainte. Mais, alors c'est ça qu'on ne sait pas, c'est qu'aujourd'hui, l'Interco, c'est plus de 2 milliards d'euros pour la culture. Deux fois plus que les régions, deux fois plus que les départements, plus de deux fois plus. Deux fois plus que Oui, que les régions, que les TRAC, pour vous donner un ordre d'idée. Et ce n'est pas lisible. On a un problème démocratique qui existe. Alors on travaille là-dessus, sur la crise des financements publics, sur les phénomènes aussi insidieux de recentralisation, parce qu'il y en a, assez paradoxaux. Et on produit effectivement depuis quelques années une conjoncture sur les dépenses culturelles des collectivités territoriales. Pourquoi ? Vous savez que le ministère de la Culture, le département des études, produisait des données sur les dépenses culturelles des collectivités, mais le problème, c'est que produisait de la connaissance, mais totalement inutile pour la compréhension de ce qui se passe. Pourquoi ? Pas tout à fait, mais c'était de la connaissance qui arrivait avec 4 ou 5 années de retard sur les faits. Aujourd'hui, les choses vont tellement plus vite qu'il faut avoir un outil, le nôtre est très imparfait, mais un outil qui nous dise quelque chose de là où les choses évoluent. Et nous, très franchement, d'ailleurs vous pouvez lire notre note de conjoncture sur le site internet de l'Observatoire, bien sûr qu'il y a des éléments statistiques qui se veulent objectifs, mais il y a un commentaire. C'est le commentaire qui est politique. Et c'est un commentaire que nous autorisons parce que nous avons une certaine indépendance, disons, par rapport au ministère de la Culture, ce qui fait que des études sur les dépenses du ministère ne vont peut-être pas aussi loin, de façon aussi audacieuse. Et puis on travaille sur des études qualitatives, parfois appuyées sur des travaux quantitatifs, sur la participation des habitants à la vie culturelle, en France et dans le monde. Parce que on a parfois l'impression que les choses tournent un petit peu autour de la planète France en matière culturelle, alors que ce qui se fabrique aujourd'hui en matière artistique ici, par exemple en matière d'art participatif, on peut l'observer à l'échelle mondiale dans la plupart des pays aujourd'hui, dans la plupart des sociétés ouvertes. Donc il y a quand même là un phénomène global qui est très intéressant à prendre en compte. Alors, puisque vous réfléchissez aussi à vers quoi on va, nous on se donne aussi comme objectif de travailler sur un certain nombre de sujets de fond. L'année prochaine, on va se servir du prétexte du 30e anniversaire de l'Observatoire pour creuser ces sujets de fond. C'est-à-dire que ce n'est pas pour faire de la rétrospection, pour regarder l'histoire des politiques culturelles, ça ne nous intéresse pas beaucoup, mais plutôt où ça va. Et les sujets qu'on va aborder, alors là un peu librement et en partenariat avec pas mal d'organismes, de structures, ils vont tourner autour de comment partage-t-on l'art aujourd'hui ? Et quand je formule les choses comme ça, il y a 30 ans, on n'aurait pas formulé la question de cette façon-là. On aurait parlé de l'accès éventuellement à l'art, de la démocratisation, de la relation à l'art, etc. Comment partage-t-on l'art aujourd'hui ? Quelle responsabilité de la culture face à la crise de la démocratie ? Il y a quelques années, on se serait lamenté encore sur la crise de la démocratisation. Bon, mais le sujet, pour moi, n'est plus exactement là, même s'il peut être encore en partie là. Mais je dirais que les questions, elles sont plus globales. Et qu'est-ce que les arts nous disent de la transformation du monde ? Je trouve, moi, que c'est une question intéressante et importante. Finalement, on la pose assez peu sous cet angle-là. Il y a aujourd'hui des arts qui nous parlent de diversité culturelle. Enfin, les arts nous ont toujours parlé de diversité culturelle d'une façon ou d'une autre. Mais il y a aussi un art écologique qui nous parle, qui nous dit quelque chose du monde d'aujourd'hui, etc. etc. Comment humaniser la civilisation numérique ? Vous voyez à quel point les politiques culturelles, y compris territoriales, sont bousculées par les outils numériques et les cultures numériques. Comment s'adaptent-elles à cette nouvelle donne ? Est-ce qu'elles ont encore quelque chose à dire ? Ça, c'est une question politique et très compliquée, parce que nos élus aujourd'hui sont assez démunis, et parfois aussi les techniciens des collectivités sont très démunis par rapport à ça. Bon, on va aussi parler de la diversité, débarrasser d'un certain nombre d'embarras, parce que, vous savez, sous le vocable de diversité, on peut tout dire et tout défendre, et dire une chose et son contraire. Mais comment faire de cette diversité une ressource dans les vies de monde de notre propre pays ? Parce que, vous savez, parfois, quand on entend certains responsables politiques, on entend dire que Paris est une ville monde. Des villes monde, il y en a partout en France. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette diversité ? Est-ce qu'on va enfin la métaboliser dans un projet politique ? Ou est-ce qu'on va continuer, comme on l'a fait, de ne pas savoir finalement quoi faire ? bon, etc. Comment penser l'Europe comme une communauté de destin? Et s'il faut penser l'Europe comme une communauté de destin, comment renforcer la citoyenneté européenne? Et s'il faut renforcer cette citoyenneté, comment le faire si on ne travaille pas un projet culturel pour l'Europe? Vous voyez, ça, voilà des sujets. Et puis, on terminera ce parcours et ce tour à Grenoble avec, au fond, une perspective, une idée, une hypothèse. Eh bien, c'est de dire que dans le monde d'aujourd'hui où tout est compartimenté, où nos politiques sont compartimentées, ce dont on a besoin, c'est de relier les politiques, c'est de plus de coopération, c'est de plus de relations. Et donc, l'idée, c'est de dire que pour s'en sortir, il faut essayer de construire une politique de la relation. Ça, c'est le parcours voilà, qui nous permet de regarder un peu les sujets importants. Enfin, ceux qui nous paraissent importants, bien évidemment.